bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Toute cette semaine, la fiction est en public et en direct du Musée Calvet, Avignon, jusqu'à 21h. Les Grecs sont au cœur de notre actualité à tous, ils sont aussi au cœur de notre histoire. On l'a entendu hier soir avec les réécritures d'Ajax, de Sophocle et Prométhée d'Eschyle par l'écrivain allemand Heiner Müller. Ce soir, c'est d'une autre réécriture qu'il s'agit, celle d'une pièce d'Eschyle, Les Suppliantes, par Olivier Py, metteur en scène, écrivain et directeur du Festival d'Avignon. Cette pièce fait partie d'une trilogie avec les Perses et Sept contre Thèbes qu'Olivier Py a mise en scène il y a quelques années dans l'esprit d'un théâtre d'intervention qui lui permet de jouer dans toutes sortes de lieux qui ne seraient pas des théâtres, des salles des fêtes, des établissements scolaires, des comités d'entreprise et donc pourquoi pas pour la radio.
Pourquoi pas, bien sûr.
Voilà, il nous a dit oui. Bonsoir Olivier Py.
Bonsoir Blandine.
Alors c'est ainsi que nous avons enregistré l'an dernier ici même au Musée Calvet les Perses et que ce soir nous représentons Les Suppliantes. L'idée était de se retrouver chaque année au Musée Calvet avec un nouvel épisode de cette trilogie avec Olivier Py et avec les mêmes acteurs, Philippe Girard, Mireille Herbstmeyer et Frédéric Le Sacripant. La pièce s'ouvre par un chœur qui est aussi le personnage principal et qui est interprété par Mireille Herbstmeyer. Ce chœur, c'est celui des Danaïdes, héroïne légendaire, fille de Danaos qui règne en Libye. L'Égyptien, son frère, règne en Égypte et il est le père de 50 fils qui veulent épouser les Danaïdes. Celles-ci, refusant ce mariage forcé, fuient avec leur père. Les Danaïdes deviennent les suppliantes, une forme archaïque des migrants, des exilés, des déplacés de la Méditerranée. Et la pièce s'ouvre au moment où elle demande l'hospitalité et la protection au roi d'Argos. Celui-ci, après avoir pris la vie de son peuple, accepte de les accueillir malgré la menace d'une guerre avec l'Égyptien. Olivier Py, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous ce soir en direct du Musée Calvet et sur le plateau, il va y avoir tout à l'heure des acteurs qui vous sont très chers pour dire ce texte qui est tout à fait impressionnant d'actualité. Et c'est vrai que nous allons entendre des phrases qui ont été écrites dans les années 460 avant Jésus-Christ par Eschyle, que vous avez réécrites vous-même, que vous avez traduites, adaptées, et des phrases qui sont comme des échos à tout ce que nous traversons, tout ce que nous entendons sur les questions liées à l'immigration. Je voudrais juste citer une phrase que vous entendrez tout à l'heure, donc écrite il y a plus de 2000 ans. « Ne refuse pas l'asile aux exilés échoués sur ton rivage, ne laisse pas la folie des hommes profaner cet autel et provoquer contre toi la colère des dieux. » Olivier Py, quand nous étions dit que nous allions enregistrer cette trilogie ici au Musée Calvet, nous ne pensions pas que nous serions à ce point en accord avec l'actualité, avec notre monde.
Oui, c'est parce que je crois que quand on travaille sur une tragédie grecque, et celle d'Eschyle en particulier, on n'est pas lié à l'actualité, on est lié au présent. Il nous force à comprendre le présent. Eschyle est à la fois poète et géographe, et dans toutes ces pièces, il y a toujours un moment de géographie où on décrit un voyage. Et dans ce moment géographique, à l'époque, se procurer des cartes ne devait pas être facile, on entend l'absolue synonymie entre le mot méditerranéen et le mot migrant. Si je dis, moi, souvent que je suis un méditerranéen, ça veut dire que je suis évidemment un enfant de migrant. L'actualité croise deux fois ce texte-là. D'abord, la situation des migrants, et c'est vrai que ces femmes ont fait un voyage difficile, qu'elles ont fui le viol ou le meurtre, contrairement d'ailleurs à certains migrants d'Érythrée ou d'ailleurs, qui ont subi le viol, qui ont subi la dépossession totale. Mais ça croise une autre question qui est celle des femmes. Au fond, la question que nous pose Eschyle est très simple. Une démocratie qui n'est pas capable d'accueillir l'étranger quand il est en péril, est-ce encore une démocratie ? Une démocratie qui ne fait pas une place aux femmes qui leur permettent d'accéder à leur dignité, la dignité la plus totale, la citoyenneté, est-ce encore une démocratie ? Ces questions-là sont évidemment des questions d'aujourd'hui, je dirais même de plus en plus brûlantes. Le rapport à l'autre définit notre démocratie. Il y a trop de partis politiques qui voudraient une démocratie seulement pour les uns et pas pour les autres, une démocratie pour nous, pour ma famille, pour mon clan, pour mes voisins, pour ma mère et pour ma sœur. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas du tout envisageable. Et en cela, je dis, moi, je suis un fils d'émigré. Je suis un Méditerranéen.
Vous avez parlé de la question de l'autre. Je crois que c'est cette question-là qui traversait toute votre programmation. Et finalement, c'est une coïncidence, la programmation de cette pièce ce soir, Les Suppliantes. Il y a effectivement la question de la femme dans la guerre. À un moment, le chœur, qui est interprété par Mireille Herbstmeyer, dit à son père, Adanaos, « Reste avec nous. Qu'est-ce qu'une femme dans la guerre ?»
Oui, Eschyle rompt avec la tradition homérique, si vous voulez. Homère ressemble un petit peu à du cinéma hollywoodien. La guerre est toujours héroïque, elle est homérique. Et Eschyle, qui est un vétéran, il ne faut jamais l'oublier, il a fait la bataille de Salamine, connaît la vérité de la guerre. La véritable boucherie de la guerre, pour les vainqueurs et pour les vaincus, c'est la même perte d'humanité. C'est pour ça que je vous conseille de lire Eschyle, parce que c'est vraiment un type bien. C'est toujours un type bien. On en pleure tellement c'est un type bien. Sa bataille pour la démocratie, c'est bien plus que du lobbying pour Périclès. C'est vraiment l'idée qu'un système général basé sur la culture pourrait produire une paix à la fois pour la nation et pour l'individu. Une paix intérieure et une paix politique. Mais pour ça, il faut le théâtre.
Alors, Olivier Py, je ne sais pas en fait quel terme il faut employer, parce que je ne sais pas si vous l'avez traduit, si vous l'avez réécrit, mais en tout cas, c'est un très, très beau texte. Et comment vous avez attrapé ce texte d'Eschyle ?
Je préférerais dire traduit, même si mon grec ancien est vraiment d'un niveau absolument inexistant. Mais ce n'est pas grave, j'avais des mots à mots, j'avais autour de moi des gens qui m'aidaient pour le mot à mot, et puis surtout, je lisais toutes les notes qu'on peut écrire sur ces vers-là. Donc je ne prétends pas du tout être savant là où je ne le suis pas, mais ma seule prétention est que je suis un homme de mon temps, et un homme de mon temps qui lit dans Eschyle des réponses aux questions qu'il se pose aujourd'hui.
Ce sont des fragments. Eschyle a écrit 97 pièces totalement disparues.
Et il ne nous en reste que 7. C'est fort dommage quand on sait que ces 7 pièces ont architecturé notre pensée politique. Donc il faut les relire encore. On imagine ce que toutes les autres auraient pu produire. Mais enfin, elles sont là. Déjà, il faut se réjouir de ce trésor. Elles sont assez peu montées. Je dirais que Eschyle est finalement moins monté que Sophocle et Euripide, peut-être parce qu'il est en quelque sorte radical, et puis parce que, comme vous l'aviez dit, souvent, le personnage central, c'est pas un personnage, justement, c'est le cœur. Le personnage central, c'est nous. Enfin, le personnage central, c'est vous.
Et vous vouliez que ce théâtre-là, cette trilogie, elle se joue partout.
Mais d'abord, je voulais monter Eschyle, c'est tout. Je ne voulais pas faire œuvre sociale au départ, et les acteurs pourraient en témoigner. J'étais frappé de la puissance de ces textes-là, à tout niveau, poétique et politique. Et je me suis dit, mais comment le faire ? Et dans une saison qui était déjà fortement programmée, je me suis dit, faisons-le avec rien.
Vous étiez à l'Odéon à ce moment-là ?
C'était à l'Odéon. Faisons-le avec rien. Faisons-le avec rien, pas rien. Le texte et les acteurs. Mais aucun arroi. Et comme c'était très très léger, eh bien oui, on a pu le tourner dans des lieux qui ne sont pas des lieux théâtraux, et ça continue. Et c'était une bonne idée, c'est de là qu'est partie l'idée du théâtre d'intervention qu'on a prolongé à Avignon, et cette année c'est la pièce Ubu, c'est pas tout à fait le même style, mais il y a quelques considérations politiques quand même dans Ubu. Et c'est la pièce Ubu cette année qui a la lourde responsabilité de partir avec presque rien, des acteurs et un texte, à la rencontre de publics qui ne vont pas au théâtre.
Alors Olivier Py, je vous propose que nous allions avec presque rien, avec de grands acteurs, avec des micros. Nous allions à la rencontre du public ici au Musée Calvet, qui est très nombreux, et puis à la rencontre de tous les auditeurs, puisque nous sommes en direct. Donc tout de suite, nous allons écouter Les Suppliantes d'Eschyle, donc texte français traduit du grec par Olivier Py, avec Mireille Herbstmeyer dans le rôle unique des suppliantes, Philippe Girard dans le rôle de Danaos, puis de l'Égyptien, le frère de Danaos, Frédéric Le Sacripant dans le rôle du prince qui accueille les suppliantes. C'est une réalisation pour la radio de Baptiste Guiton.
demandeur d'asile. Zeus, regarde-nous. Notre périple a commencé au sable fin du Nil, si loin, dans cette Égypte qui touche à la Syrie, exilé, non pour avoir commis un crime, mais pour avoir refusé un mariage sacrilège, et par horreur des hommes qui nous voulaient de force. Danaos, notre père, Danaos, notre guide, a tranché pour nous. Entre deux malheurs, c'est l'exil qui sauvait notre honneur. L'exil, effréné, par-delà les dangers de la mer, pour nous échouer en Argos, terre de nos origines. C'est ici que notre ancêtre, Io, changé en génisse, a été persécuté par un insecte bourdonnant, avant d'être délivré par le souffle et la main de Zeus. Quel autre pays pourrait nous accorder asile ? Nous tenons dans nos mains le signe des suppliantes, ce rameau vert décoré de rubans sacrés. Terre, eau claire, Dieu du ciel et Dieu des profondeurs qui mûrissent les malédictions dans l'ombre des tombeaux. Accueillez ces femmes, ayez pitié de ces femmes, repoussez vers le large l'armée des Égyptiens avec leurs navires puissants et leur folie inhumaine. Qu'ils meurent dans les tempêtes et les naufrages, qu'ils meurent dans l'impitoyable furie de la mer, qu'ils meurent avant d'avoir commis le sacrilège et le viol. J'appelle par-delà la mer ce jeune taureau, fils de Zeus et de cette génisse, notre ancêtre qui se nourrissait de fleurs dans la prairie. Zeus l'a délivré par imposition des mains. Elle a mis au monde son fils, Épaphos, dont le nom veut dire « toucher ». J'invoque ce nom en disant les malheurs de mon ancêtre pour prouver mon appartenance à cette terre. La vérité parle parfois une langue étrangère, comme le chant des oiseaux, comme Procné, changé en rossignol qu'un épervier poursuit, condamné à l'exil pour avoir de sa main de mère dénaturée tuer son propre fils. Comme elle, je pleure et déchire mon visage brun. Je déchire mon cœur. Je lui apprends les larmes. Et ces torrents de larmes vous disent mon angoisse. Loin des brumes d'Égypte, y a-t-il fraternité et protection? Ancêtre divin, vous qui connaissez la justice, vous qui condamnez et punissez la folie des hommes, faites triompher notre droit à refuser cette union. Le temple est bien un asile pour les victimes des guerres. Comment cela finira-t-il? Bien ou mal, qui peut connaître la volonté de Zeus? Comme sa lumière vient à travers l'obscurité, son châtiment frappe les mortels dans la nuit. Un froncement de sourcils et sa malédiction tombe. Sa volonté traverse l'ombre et les ténèbres. Zeus précipite les mortels de l'espoir au néant, sans aucune autre force que la divine volonté qui règne dans le ciel et par qui tout s'achève. Il voit renaître la folie dans le cœur des mortels, le crime, et le viol, et les désirs les plus obscurs, nés de l'aveuglement, de la violence, et de la violence aveugle. Voilà ce que disent mes larmes, ce que disent mes cris, comme si je chantais mon oraison funèbre. Terre des montagnes, entends-tu ma voix? Terre d'Apis, comprends-tu ma langue? Ma main dans la douleur a déchiré mon voile. Quand la mort vient, le ciel se remplit de prières. Mais qui peut dire où nous emportera la mer? Notre barque a traversé les flots sans naufrage. J'en remercie les vents, j'en remercie le ciel. Que le Père qui voit tout nous guide vers l'espoir. Que notre ancêtre nous épargne le viol et l'esclavage. Que la Vierge Athéna protège notre virginité. Si nos voix n'ont pas su s'élever jusqu'au ciel, nous descendrons aux enfers un rameau à la main, après nous être pendus aux statues des dieux sourds. La jalousie des rats poursuit Io à travers nous. Elle enflamme le ciel et arme la tempête.
Prudence, mes enfants. C'est votre père et la prudence qui ont guidé la barque. Et maintenant sur le rivage, écoutez-moi encore. Au loin, la poussière nous annonce une armée. J'entends le crissement des essieux et des chars. Je vois les boucliers, les chevaux et les armes. Un messager a dû les avertir de notre présence. Qu'ils viennent bienveillants ou hostiles, attendez-les assis aux marches de ce temple. Un temple nous protège mieux qu'une citadelle. Allons, vite, le rameau sacré dans vos mains gauches est comme le drapeau des demandeurs d'asile et le signe que vous êtes sous la garde de Zeus. Zeus exige qu'on respecte les étrangers. Répondez par vos larmes et vos gémissements. Vos larmes parlent mieux que ne le fait ma voix. Dites que votre exil n'est pas taché de sang. La tête basse, la voix calme, le regard humble, soyez brève. Les étrangers sont très peu écoutés et les faibles n'ont pas droit à l'insolence des mots.
Tu parles de prudence à des filles prudentes. Nous ferons comme tu dis. Que Zeus soit avec nous.
Oui, que son œil se tourne vers nous.
Que sa volonté s'accomplisse.
Oui.
Zeus, prends pitié. La mort est là.
Priez aussi le fils de Zeus, Apollon.
Je te salue, soleil.
Exilé du ciel, il protège les exilés.
Alors qu'il nous protège, qui priez encore?
Le trident de Poséidon.
Qu'il nous sauve, comme il nous a sauvés sur la mer.
Hermès.
Qu'il nous apporte la bonne nouvelle.
Priez également tous les dieux de ce temple. Et puis, asseyez-vous au cœur du sanctuaire comme un vol de colombe fuyant l'oiseau rapace. Vos frères de sang veulent votre sang. L'oiseau qui tue l'oiseau est à jamais impur. L'homme qui viole une femme est à jamais impur. Jusque dans les enfers, son crime est proclamé. Et là, un autre Zeus prononce la sentence. Défendez-vous avec ces mots pour que triomphe la justice.
Thank you. Grecs. Quel courage de débarquer sur cette terre sans guide, sans garde et sans ambassadeur. Je vois au pied des dieux des rameaux de suppliantes, et ce rite est aussi un rite de la Grèce. Mais assez d'hypothèses. Parlez, je vous écoute.
C'est vrai. Nos costumes ne sont pas ceux des Grecs. Et toi, qui es-tu ? Un citoyen ? Un prêtre ? Un prince ?
Ne crains rien. Je suis Pélagos, fils du roi Palaïcton, et les hommes de cette terre se nomment les Pélages. Mon royaume commence aux rives occidentales du Strymon, les Pérèbes, le Pinde qui borde la Péonie, les cimes de Dodone et de là tout, jusqu'aux limites de la mer, m'appartient. Ce pays a pris le nom d'Apis, fils d'Apollon, prophète et magicien, qui est venu des rives de nos pactes pour délivrer cette terre des monstres qui la saignaient. Une armée de serpents dévorait les humains, punition de la terre pour des crimes d'un autre âge. Apis avait contre eux les armes de sa science. La terre porte son nom et nos prières le bénissent. Tu sais qui je suis. À toi de parler. Sois brève.
Je serai brève. Est clair. Nous appartenons à cette terre. Notre ancêtre est une génisse, je peux le prouver.
Quoi ? Vous prétendez appartenir à cette terre ? Mais vous ressemblez plutôt à des Libyennes, des femmes des bords du Nil ou des femmes de Chypre, des Amazones dangereuses, mais vous êtes sans armes. Parlez, je veux savoir. Vous n'êtes pas argienne.
Il y avait ici une prêtresse d'Héra du nom d'Io.
La légende le dit.
On dit que Zeus la désirait.
Et Héra l'a vue.
Elle s'est vengée.
Elle a transformé Io en génisse.
Mais Zeus la voulait encore.
Changer en taureau pour la prendre.
Et Héra l'a surpris. Elle a fait garder Io.
Par qui ?
Par Argos. Et Hermès a tué Argos.
Et alors ?
Héra a lancé un insecte sur la génisse.
Un frelon.
Et l'insecte a poursuivi Io loin d'Argos.
Elle a fui à Canope et Memphis. Nos mythes s'accordent.
Là, Zeus la délivre de sa main. Et elle met au monde un fils.
Son nom ?
Épaphos, qui veut dire toucher.
Et d'Épaphos est né...
Libye, la plus grande terre du monde.
Et...
Bélos, qui a eu deux fils, Danaos, père de 50 filles,
et
Égypte, père de 50 fils. Voilà notre origine. Nous ne sommes pas des étrangères.
Oui, nous avons un lien lointain, c'est vrai. Quel destin vous a fait fuir la maison paternelle ?
Les masques du malheur ne sont jamais les mêmes. La couleur de ses ailes change selon les jours. L'exil nous guide vers Argos, qui est notre origine. Et l'horreur du mariage nous conduit vers des frères.
Que veux-tu avec ces rameaux verts décorés de rubans ?
Fuir l'esclavage des Égyptiens.
C'est eux ou l'inceste que tu es ?
Si je les aimais, ils auraient ma dot.
La dot est pour la maison, pas pour le mari.
C'est payé pour être esclave.
J'aimerais vous aider comme l'ordonnent les dieux.
Si les Égyptiens viennent, ne nous livrent pas.
Mot terrible. C'est la guerre que tu dis.
La justice est avec toi.
Mais est-elle avec vous?
Notre espoir est à ton bord.
J'ai peur de l'ombre de ces rameaux sacrés.
Oui. Il faut craindre la colère de Zeus. Fils de Palaïcton, prince des Pélages, ouvre ton cœur. Me voici, suppliante, fugitive, gibier devant les loups, perdue dans les montagnes, je pleure,
et appelle un berger.
Dans l'ombre verte des rameaux brille le visage des dieux. Que la question des étrangers n'apporte pas le trouble. La cité n'a pas besoin de ces nouveaux malheurs.
Nous ne voulons pas que notre présence trouble ta ville. Que Thémis, qui préside au destin, nous assiste. Aider les étrangers apporte le bonheur. Ne te rends pas coupable devant Zeus. Les dieux refuseront tes offrandes si ton cœur est impur.
Vous n'êtes pas dans ma maison, mais dans un lieu public. Si la cité est en danger, c'est à la cité de trancher. Je ne fais pas de promesses sans avoir écouté le peuple.
Mais le peuple, c'est toi. Et le pouvoir, c'est toi. Toi seul décides. Tu règnes et ne gouvernes pas. Si tu commets la faute, tu es le seul coupable.
Que les dieux me gardent de commettre une faute. J'entends vos prières, mais ne peux pas vous aider. Que faire? Terreur, angoisse, agir ou pas? C'est à moi de faire pencher la balance du destin?
Tourne-toi vers le ciel, où quelqu'un te regarde. La justice d'en haut protège les misérables. Zeus vomit ceux qui ont abandonné leurs frères.
Les Égyptiens sont peut-être dans leurs droits, et je ne connais pas les lois de ton pays. Comment les combattre si la justice est avec eux?
Jamais nous n'accepterons de leur être soumises. Les étoiles nous diront le lieu de notre exil. Sois du côté de la justice et décide. Les dieux te regardent.
Je ne peux pas trancher. Ce n'est pas à moi de le faire. Je règne pour le peuple, je règne par le peuple. Et je ne voudrais pas m'entendre dire un jour, pour sauver l'étranger, il a perdu sa ville.
Zeus, notre père à tous, nous regarde d'en haut. Il juge les coupables et honore les justes. La justice d'en haut doit être ton seul guide.
Il faut que vienne à moi une pensée qui sauve. Je dois descendre dans les profondeurs de mon âme sans que l'ivresse des abysses me trouble, épargner la cité et me sauver moi-même, éviter la guerre sans commettre la faute qui me serait reprochée jusque dans les enfers. Il faut que vienne à moi une pensée qui sauve.
Prends ta décision et plaide en notre faveur. Ne refuse pas l'asile aux exilés échoués sur ton rivage. Ne laisse pas la folie des hommes profaner cet autel et provoquer contre toi la colère des dieux. N'accepte pas qu'on nous traite comme du bétail, qu'on nous enlève à ce temple traîné par nos voiles. Un jour, tes enfants paieront aux dieux de la guerre pour la faute commise contre la justice de Zeus.
Contre les uns ou les autres, quoi que je fasse, c'est la guerre. Ma barque s'est échouée sur cet écueil. L'argent perdu peut être regagné, et les mots qui ont fait du mal, rachetés par d'autres mots. Mais rien ne peut racheter la mort d'un homme. Voilà ce que veut dire le drame que nous vivons. J'aimerais me tromper en prédisant le désastre. Il y a un espoir auquel je crois sans croire.
Un mot encore?
Je t'écoute.
Voici ma ceinture.
Ta ceinture?
C'est mon secours.
Je ne comprends pas.
Sans ta promesse.
La ceinture est ton secours.
Nous allons décorer ces statues d'étranges offrandes.
Je ne comprends pas. Parle!
Nous nous pendrons aux statues de ces dieux.
Mon cœur ne peut pas supporter ces mots.
C'est clair?
Oui. Et quoi que je fasse, il n'y a pas d'issue. Le fleuve du malheur m'engloutit dans ses eaux. Je coule dans les profondeurs d'une mer de douleur. Vous refuser l'asile est une faute immense. Mais si je prends les armes contre les Égyptiens, le sang de mes frères va couler pour des femmes. je ne dois plus penser qu'au jugement de Zeus. Toi, le père de ces vierges, prends ces rameaux. Ce sont les emblèmes des demandeurs d'asile et le signe que Zeus protège les étrangers. Porte-les dans tous les temples de la ville pour qu'ils comprennent ce que je vais leur dire. Le peuple doute assez de la parole des rois. La folie de ces hommes les remplira d'horreur et ils s'engageront du côté du plus faible.
Que tu nous défendes est un bonheur sans prix. Mais donne-moi aussi des guides et des gardes. Ils m'aideront à trouver les temples des dieux locaux et me protégeront dans les rues de la ville. Mon visage est un visage d'étranger. Par ignorance, on peut commettre un crime.
Tu as raison. Garde, conduisez-le au temple. Aux questions, répondez que c'est un marin et qu'il est sous la protection de nos dieux.
Va ! Mais moi, qui me protégera ?
Abandonne ces rameaux et ta douleur.
Voilà. Maintenant, c'est toi et ta parole qui nous gardent.
Va t'asseoir sur le parvis du temple.
Rien ne m'y protège.
Moi, je ne te livrerai pas aux rapaces.
Et aux serpents.
La confiance est dans ma parole.
L'angoisse parle dans mon cœur.
Délivre-toi de l'empire de la peur.
Ce sont tes actes et tes mots qui me délivreront.
Va, ton père ne te laissera pas seul longtemps. Moi, je vais plaider votre cause devant le peuple. À ton père, je soufflerai les mots qu'il doit dire. Priez les dieux de la cité, qu'ils vous exaucent. Moi, je vais mettre en acte ce que j'ai dit, avec un peu de chance et la force de la parole.
Dieu des dieux, bienheureux parmi les bienheureux, Zeus tout-puissant, sauve-nous, exauce-nous, protège-nous de la folie de ces hommes et que fasse naufrage le vaisseau noir du malheur. Sauve-nous. Tu as aimé autrefois notre aïeul. Sois bon encore. Souviens-toi, ta main a délivré Io. Nous sommes tes filles et nous venons de cette terre. Nous avons retrouvé le chemin de la prairie où notre ancêtre se nourrissait de fleurs sous l'œil du gardien envoyé par Héra. Persécutée par un frelon qui la rendait folle, elle traverse les pays, elle traverse la mer. Dans le détroit où les deux continents se regardent, elle fuit. L'Asie, la Phrygie, Teutras en Mysie, les montagnes de Lydie, de Cilicie, de Pamphylie, la terre d'Aphrodite où germe le blé d'or, harcelée par l'insecte. Elle entre en Égypte, verger de Zeus, champ fertilisé par la fonte des neiges, où passe un vent furieux et le Nil aux eaux pures. Halluciné, épuisé par le supplice et l'exil, on pâlit d'effroi en voyant cette bête humaine, ce corps abominable, moitié génisse et moitié femme. On reste pétrifié au passage du monstre. Qui a exorcisé la bête pourchassée par l'insecte ? Zeus, qui règne dans le temps et dans l'éternité, son souffle et sa clémence l'ont sauvé du malheur. Et lentement, elle laisse alors couler ses larmes, des larmes de douleur, des larmes de pudeur. Elle met au monde le fils parfait de Zeus. Et pour ce fils, la vie sera longue et heureuse. On le proclame fils de Zeus, source de vie. Son père a dénoué les sortilèges d'Héra. et nous sommes ses filles, comme les filles de Zeus. C'est toi, entre les dieux, qui entends ma prière. Toi, Père, Seigneur, Créateur, le salut et le souffle. Rien au-dessus de toi. Pas d'autre loi, pas d'autre règne. Ton verbe est action et ton action est verbe.
Mes filles, réjouissez-vous. Le peuple a pris sa décision.
Parle. Ils ont voté à main levée.
À l'unanimité, le peuple a pris notre parti. Mon cœur reverdit, les mains droites comblaient le ciel. Ils nous donnent le droit d'asile et leur protection. Le citoyen qui refuse son aide à l'étranger ou l'abandonne à ses ennemis est banni de la cité. Le prince a fait voter cela. Il a fait craindre la colère de Zeus. Il a dit que la faute politique et morale serait payée d'innombrables souffrances. À ces mots, la foule, sans attendre, a levé sa main droite. Nous devons notre salut à la force des mots et à Zeus.
Pour ce bonheur, souhaitons-leur mille bonheurs et que Zeus les protège comme il nous protège. Dieu, enfant de Zeus, écoutez nos prières, exaucez les vœux que nous faisons pour cette terre. Que le cri de la guerre n'arrête pas les danses, ne fauche pas les hommes au chant de la jeunesse. Ils accueillent les malheureux. Ils prennent notre parti. Ils défendent les femmes contre la loi des hommes. Ils devinent la force du Dieu inébranlable qui, d'un souffle, peut anéantir une ville. Ils voient dans l'étranger le visage d'un frère. Et les dieux entendront la voix de leur cœur pur. Sous le rameau sacré, orné de rubans blancs, je prononce des vœux de bonheur et de gloire. Que jamais la peste ne ravage la ville. Que le sang des fils ne rougisse pas le sol. Que pousse librement la fleur de la jeunesse. Que le dieu de la guerre, qui jalouse l'amour, n'en fasse pas moisson en détruisant l'espoir. Que les anciens s'assemblent dans la lumière des temples. Que la cité prospère dans le respect de Zeus. Zeus, qui nous demande d'accueillir l'étranger et dont la loi sacrée préside à nos destins. Qu'Artémis et Hécate fassent naître des chefs pour que jamais le cri de la guerre civile ne fasse taire la musique des cithares. Qu'Apollon empêche la mort des nouveau-nés, que les brebis soient fécondes et les terres fertiles, que Zeus et les dieux rendent la ville prospère, que montent vers le ciel les chants purs et sacrés, que l'intérêt général soit le cœur du pouvoir, sans connaître le déshonneur de la corruption.
Que les lois soient justes pour le statut des étrangers. Couronnez de lauriers, allumez les autels et vénérez vos pères, les dieux et la justice.
Mes filles chéries, j'applaudis vos bénédictions, mais je porte des nouvelles qui vont vous effrayer. Le vaisseau de la guerre paraît à l'horizon. Je vois les coques, les voiles et les gréements, l'œil peint à la proue qui semble tracer la route. Je vois l'équipage noir dans ses costumes blancs et derrière l'escadre et l'armée gigantesque. Déjà le navire de tête à bord en ramant. Restez calme, priez les dieux, je vais chercher secours. Si on vient pour vous prendre, non, ne craignez rien. Mais si nous tardons trop, réfugiez-vous au temple. Courage, la justice d'en haut reconnaît les coupables.
Père, j'ai peur. Les navires sont là, tout est perdu. Notre exil effréné ne nous a pas sauvés. Terreur !
Les Argiens ne reviendront pas sur le vote. Ils ont juré de vous défendre. Aie confiance.
Les Égyptiens aiment la guerre, tu le sais. Sur leur navire parfait, où brille un œil d'azur, le destin sert la haine de la grande armée noire.
Une grande armée les attend, forgée par le soleil.
Reste avec nous ! Qu'est-ce qu'une femme dans une guerre ? Ce sont des corbeaux, meurtriers et profanateurs.
Je veux croire que les dieux les haïssent comme toi.
Ce ne sont pas ces statues qui les arrêteront. Chiens enragés, profanateurs, sacrilèges.
Les loups triompheront des chiens.
C'est la fureur du rut, c'est la démence du meurtre.
Une armée ne peut pas débarquer aussi vite. Ils doivent jeter l'ancre, assurer les amarres. Ils ne connaissent pas les récifs du rivage. Et le soleil descend sur l'horizon marin, terreur des capitaines qui montent de la mer. Le navire n'est pas sûr dans les grèves obscures. Si tu as peur, prie les dieux. Je serai bientôt là. Je ne serai pas long à trouver du renfort. Le messager est vieux, mais sa parole sans âge.
Terre de montagne. Terre bénie, que faire ? Où fuir ? Dans quel trou noir se cacher ? Je voudrais être fumée et monter vers le ciel. Je voudrais être poussière et mourir dans les airs. Mon âme a froid et mon cœur tremble dans sa nuit. La terreur me tue. Je veux... mettre une corde à mon cou. La mort plutôt que le viol. Et errer dans les enfers. Je voudrais être neige et disparaître au ciel. Je voudrais être neige et fondre des sommets. Je laisse mon cadavre aux chiens et aux oiseaux. La mort délivre du malheur et délivre des hommes. La mort délivre. La mort. La mort seule nous délivre. Je crie vers le ciel, mais le ciel reste sourd. Père, regarde-nous. Oppose ta justice à la violence. C'est toi-même que tu sauves en sauvant tes fidèles. La fureur des Égyptiens pousse son cri lubrique. Ils jurent que la force leur donnera le droit. Mais c'est toi qui tiens la balance. Rien n'est sans toi. Ils sont là. Monstres. À l'aide. mon supplice commence. Pas de secours. Terreur sur la terre. Terreur sur la mer. Prince, sauve-nous.
À bord. Vite, ou je vous traîne par les cheveux. Le fer va marquer vos chairs, les têtes tombées, et le fleuve de sang va couler vers la mer.
Ta folie n'a pas fait naufrage, Égyptien, ni tes vaisseaux.
Allez, à bord, sors du temple.
Je ne veux pas revoir les eaux rouges du Nil qui apportent la vie et apportent la mort.
À bord, de gré ou de force.
Meurs, meurs. Englouti dans les eaux sacrées de la mer.
Sur le navire, tu pourras crier autant que tu veux.
Meurs avec ta folie dans les eaux du Nil.
Allez, embarquez ou je vous traîne par les cheveux.
Le temple qui devait nous sauver nous a perdus. L'araignée noire, le spectre noir m'emporte. Hélas, trois fois hélas, ô Zeus, ô
Je ne crains pas les dieux compris sur cette terre. Déchirez leurs habits, traînez-les au navire. Bientôt vous n'aurez pas d'autres dieux que nous.
Arrête-toi! Tu as posé le pied sur la terre des Pélasges. Il n'y a pas ici que des femmes sans défense. C'est la folie qui te pousse à provoquer les Grecs.
Je suis dans mon droit.
Tu es un étranger.
Ces femmes sont à nous.
Qui l'a déclaré?
Hermès, dieu des voyageurs.
Tu ne respectes pas les dieux.
Je respecte les dieux du Nil.
Ici, il y a d'autres dieux.
Je prends ces femmes de force.
Ne les touche pas, tu le regretteras.
Tu ne respectes pas les étrangers.
Je ne respecte pas les profanateurs.
Je vais prévenir les chefs de notre armée.
Je n'ai pas peur.
Dis-moi ton nom que je le donne à mes princes. Qu'ils sachent qui nous a pris ce qui nous appartient. Cette guerre n'est pas affaire d'argent, mais d'honneur. Bientôt les hommes cracheront la vie dans le sang.
Mon nom, vous le saurez bien assez tôt, toi et les tiens. Gagne ces femmes avec la force de la parole. Unanime, le peuple a décidé de les défendre, et cette décision est à jamais inébranlable. Cette loi n'est pas écrite, mais ma voix la proclame. Disparais.
C'est la guerre, et tu n'en connais pas l'issue.
Le vin est plus fort que la bière. Réfugiez-vous dans les remparts de la ville. L'État vous ouvrira de nombreuses demeures. Je peux vous recevoir chez moi, dans ma maison. Vous pourrez y vivre seul ou avec nous, vous êtes libre. Faites ce qui vous semble juste. Le prince vous protège. Le peuple vous accueille.
Que ses bienfaits retombent sur ton nom, prince. Mais où est notre père Danaos, notre guide? C'est lui qui décidera où nous prendrons demeure. Les étrangers ne sont pas toujours vus d'un bon œil.
Mes filles, vénérez les Argiens comme des dieux. Ensemble, d'une seule voix, ils ont été vos sauveurs. Ils m'ont écouté comme un frère. Ils ont haï nos ennemis. Ils m'ont fait une escorte pour m'honorer et me défendre. Ils m'ont évité la mort et vous ont sauvé du désastre. Nous leur devons pour toujours gratitude infinie. Écoutez la leçon d'humilité de votre père. Il nous faudra du temps pour qu'on nous accepte ici, pour que nous soyons à l'abri des insultes. Il vous appartiendra que mon honneur soit sauf. Votre jeunesse attire le regard des hommes et on vous convoitera comme un fruit tendre. Les hommes sont comme des bêtes dans le feu du désir. Ils ne valent pas mieux que des oiseaux ou des singes. La déesse Cypris chante le prix de l'amour. On regarde les vierges.
on désire leur regard. Pour fuir ce destin, nous avons labouré la mer. Ne nous faisons pas d'ennemis, fuyons le déshonneur. Le prince nous accueille, le peuple nous invite dans des demeures qui ne nous coûteront rien. Écoutez votre père, l'honneur est plus que la vie.
Ne crains rien, père. Les dieux désormais nous protègent, comme nous, nous protégeons notre virginité. Ceci est le destin où nos âmes s'avancent.
Olivier, Olivier Pie, vous pouvez saluer avec vos acteurs. Voilà, c'était, vous avez entendu en direct, en public du musée Calvet, les suppliantes d'Eschyle. Voilà. Les suppliantes d'Eschyle, un texte traduit par Olivier Pie. Les suppliantes d'Eschyle avec Philippe Girard, Mireille Herbstmeyer, Frédéric Le Sacripant. C'était une réalisation de Baptiste Guiton d'après la mise en scène d'Olivier Pie. Olivier, vous êtes avec nous à nouveau.
Oui, moi aussi je suis frappé, encore plus aujourd'hui. Je n'avais pas réentendu le texte depuis un an et demi, deux ans peut-être, par l'actualité. Évidemment, quand on entend « le vin est plus fort que la bière », c'est absolument littéral, puisque les Égyptiens buvaient de la bière et que les Grecs buvaient du vin. Mais on a un petit peu l'impression que ça dit que Athènes est plus fort que Berlin.
Par exemple. Incroyable, cette actualité. Et alors, justement, parce qu'il y a des paroles, il y a des phrases extraordinaires à propos du peuple, à propos des chefs, à propos des élus, à propos de la démocratie, à propos aussi des mots, du langage. À un moment, on entend, nous devons notre salut à la force des mots.
Oui, ça c'est très vrai chez Eschyle, mais nous avons hérité de cette tradition. C'est comme si le théâtre était une parole pleine et que cette parole pleine s'opposait à la parole vide, souvent, des politiques. Ou plus exactement, comme si au théâtre, on réapprenait le poids des mots, la véritable force de l'éloquence. Et ce que je trouve vraiment très étonnant, c'est que Eschyle ne fait pas du théâtre idéologique, parce que les arguments du prince sont assez justes. C'est vrai qu'accueillir l'étranger dans une société, ça n'est pas facile, ça ne va pas de soi, ça peut créer des problèmes. Et l'extraordinaire idée d'Eschyle, c'est que face à un problème qui est insoluble, il faut le vote. La démocratie s'invente face à deux questions majeures, le droit d'asile et le droit des femmes. C'est peut-être le plus vieux texte théâtral de l'humanité. Peut-être c'est les Perses, peut-être c'est les suppliantes, on ne sait pas. Et dans ce plus vieux texte, on entend que le droit des femmes et le droit d'asile sont l'origine même de notre démocratie.
Belle leçon qui nous vient de très loin dans le temps. Notre aventure théâtrale avec vous, Olivier Py, là, ici, au Musée Calvet, en fait, on a pris les choses à l'envers, parce qu'on a commencé l'année dernière par les Perses.
Oui.
Aujourd'hui, les suppliantes. L'année prochaine, 7 contre Thèbes.
On fait les 7 contre Thèbes, formidable.
Fait à l'envers.
Il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit. Ces histoires se répondent les unes aux autres. Les 7 contre Thèbes, c'est encore une autre question. C'est la question des médias. C'est le rôle des médias. C'est le rôle de l'image dans la société. Les médias, à l'époque, c'était des boucliers sur lesquels les images, les représentations, les signes étaient inscrits. Et Schill nous propose une véritable méditation sur la force de l'image par rapport à l'impuissance des mots ou sur la force des mots face à l'erreur de croire à la force des images.
Vous connaissez cette phrase de Jean Villard que j'ai retrouvée, c'était à propos des auteurs contemporains, et Jean Villard dit « Non mais c'est très compliqué, j'ai tout essayé ici, j'y arrive pas, en fait c'est le royaume de Shakespeare, Avignon ». On pourrait dire aussi c'est le royaume de la tragédie, mais là tout d'un coup on entend aussi que Shakespeare ou la tragédie, Eschyle, ce sont aussi nos contemporains.
Je crois que ce qui est important dans l'idée de Villard, c'est surtout que ce soit des œuvres exigeantes. Si nous avons choisi d'aller sur les routes, de souvent jouer devant un public qui n'était jamais allé au théâtre avec ces textes-là, c'était pas pour leur apporter un petit vaudeville. Au contraire, quand je présentais le spectacle, je leur disais, vous allez entendre un des textes fondateurs de l'humanité, la plus ancienne pièce de théâtre jamais écrite. Eh bien, cet auditoire qui n'était jamais allé au théâtre, qui n'était pas savant, au contraire, était captivé. On a joué les suppliantes devant des associations de femmes d'émigrés. Inutile de vous dire qu'elles savaient très très bien de quoi on parlait et qu'elles n'avaient pas besoin d'avoir un diplôme à la Sorbonne pour ça. Alors, quelquefois, je me méfie un petit peu du pseudo-savoir des élites. Et dans les traces de Villard, je crois que c'est justement le peuple qui nous demande toujours une plus grande exigence de sens.
Alors, nous espérons que le peuple, ce peuple, nous tous, nous étions écoutés ce soir aussi.
Une toute petite chose. Nous avons joué à la prison du Pontet une autre pièce d'Eschyle qui est Prométhée enchaîné. J'en garde un souvenir absolument extraordinaire, aussi fort que celui-là. La question du prisonnier et du prisonnier politique a résonné très fort dans un lieu clos où le public n'avait pas accès et qui était la prison du Pontet. Nous allons le refaire le 15 de ce jour. Malheureusement, ça n'est pas ouvert au public.
Merci beaucoup Olivier Py d'avoir été avec nous.
Merci.
Avec nous ce soir et avec vos acteurs, c'était donc les suppliants d'Eschyle. Je voudrais remercier les équipes techniques, Jean-Michel Coqui, Bastien Varigaud, Jean-Benoît Tétu, David Anéas, l'assistante à la réalisation Louise Loubrieux, le réalisateur Baptiste Guiton. Demain, je vous invite à nous rejoindre ici au Musée Calvet à 11h30 pour entendre les textes de Raphaël Spreckelbird, un auteur argentin, voilà, que nous voulions inviter ensemble avec le Festival d'Avignon. Demain, ce sera donc avec Martial Di Fonzobo et Claire Ingrid Cotenceau et les élèves du Théâtre National de Strasbourg. Demain à 11h30 et puis à 12h45, La Grande Table présentée par Maïlys Bessery. Et le soir à 20h en direct, des textes de Laurent Mauvignier que nous retrouverons dans la cour d'honneur dans 2 jours, le 17.
Dans la mise en scène et chorégraphie de Prêche-Locage.
Voilà. Et puis, pour ceux qui sont à Avignon et qui voudraient venir tout à l'heure à 22h, nous reprenons Ajax, nous restons un peu avec les Grecs. Ajax qu'on nous donne à l'ennemi par André Vins et Mathieu Boer. Voilà, c'était donc le 14 juillet ici à Avignon, en direct du Musée Calvet à l'occasion du Festival d'Avignon. Il est quasiment 21h et je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des programmes de France Culture.